Chapitre 14. Posture de fer. Forme d'accouplement, douceur d'aimer, cadeau de vie, partage du plaisir. Pour l'adopter, il faut savoir s'ouvrir et d'une réelle empathie témoigner. Extrait du chant du recensement de ceux qui écoutent. 5e couplet. Ça faisait longtemps, déclara Adeline, qui s'agenouilla en tenant sa lame d'éclat devant lui, la pointe enfoncée de quelques centimètres dans le sol de pierre. Il était seul. Il n'y avait que lui et son épée dans l'une des nouvelles salles de préparation, bâtie à côté de l'arène de duel. Je me rappelle quand je t'ai remporté, chuchota Adeline, regardant son reflet dans la lame. À cette époque non plus, personne ne me prenait au sérieux. Le dandy bien habillé. Tinalar pensait se battre en duel avec moi uniquement pour embarrasser mon père. Au lieu de quoi, j'ai gagné sa lame. S'il avait perdu, il aurait dû lui céder sa cuirasse, qu'il avait héritée du côté maternel de sa famille. Adeline n'avait jamais nommé sa lame d'éclat. Certains le faisaient, d'autres non. Il n'avait jamais trouvé ça approprié, non pas qu'il estime que sa lame ne méritait pas de nom, mais il ne pensait pas en connaître d'approprié. Cette arme avait appartenu à l'un des chevaliers radieux, longtemps auparavant. Cet homme avait certainement dû baptiser cette arme. Lui donner un autre nom semblait présomptueux. Adeline avait eu ce sentiment avant même de commencer à envisager les radieux sous un jour favorable, comme le faisait son père. Cette lame subsisterait bien après la mort d'Adeline. Il ne la possédait pas. Il ne faisait que l'emprunter, pour un temps. Sa surface était austère et lisse, longue, sinueuse comme une anguille, avec des reliefs le long du dos qui évoquaient des formations de cristaux. Elle possédait la forme d'une épée longue ordinaire, en plus grande, et ressemblait un peu aux énormes épées larges à deux mains qu'il avait vues manier par les manches-cornes. « Un véritable duel, » chuchota Adeline à la lame, « avec de vrais enjeux. Enfin, plus d'hésitation. » Plus de restrictions. La lame d'éclat ne répondit pas, mais Adeline imaginait qu'elle l'écoutait. On ne pouvait pas utiliser une arme comme celle-ci, une arme qui ressemblait à une extension de l'âme elle-même, sans éprouver parfois la sensation qu'elle était vivante. « Je parle à tous les autres avec une telle confiance, » poursuivit Adeline, « car je sais qu'ils se reposent sur moi. Mais si je perds aujourd'hui, c'est fini. » Il n'y aura plus de duel, et le grand projet de mon père s'en trouvera sérieusement compromis. Il entendait des gens à l'extérieur, des pas lourds, une rumeur de bavardage, des raclements sur la pierre. Ils étaient venus pour voir Adeline gagner ou se faire humilier. « Ce sera peut-être notre dernier combat ensemble, » dit-il tout bas. « J'apprécie ce que tu as fait pour moi. » Je sais que tu le ferais pour toute personne qui te manie, mais je t'en suis reconnaissant malgré tout. Je veux que tu saches une chose. Je crois en mon père. Je crois qu'il a raison, que ce qu'il voit existe, que le monde a besoin d'un Aletkar unifié. Des combats comme celui-ci sont ma façon de faire en sorte que ça se concrétise. Adeline et son père n'étaient pas des hommes politiques. C'étaient des soldats. Dalinar par choix, Adeline davantage par concours de circonstances. Ils ne pourraient pas provoquer l'unification d'un royaume simplement par la parole. Ils allaient devoir y arriver en se battant. Adeline se leva, tapota sa poche, puis renvoya sa lame et traversa la petite pièce. Les murs de pierre de l'étroit couloir dans lequel il entra comportaient des reliefs gravés à l'eau-forte qui représentaient les 10 postures de base du combat à l'épée. Ils avaient été gravés ailleurs, puis transportés ici lorsqu'on avait bâti cette pièce. Un ajout récent destiné à remplacer les tentes dans lesquelles se déroulait autrefois la préparation des duels. Posture du vent, posture de pierre, posture de flamme. Il y avait un relief pour chacune des 10 essences représentant la posture associée. Adeline les compta pour lui-même sur son passage. Ce petit tunnel avait été taillé à même la pierre de la reine, et se terminait par une petite pièce construite de la même manière. Le soleil vif du terrain de duel entourait d'un éclat aveuglant le contour des deux dernières portes le séparant de son adversaire. Avec une salle de préparation adéquate ou méditée, puis ce vestiaire où enfiler son armure ou se retirer entre deux combats, l'arène de duel des camps de guerre devenait aussi complète que celle d'Aletkar. Un ajout bienvenu. Adoline pénétra dans le vestiaire où l'attendaient son frère et sa tante. Père des tempêtes, comme ses mains étaient moites de sueur. Il ne s'était jamais senti aussi nerveux lorsqu'il partait au combat, où sa vie était réellement menacée. Tante Navani venait de terminer un charme glyphique. Elle descendit de l'estrade, posa son pinceau et lui tendit le glyphe. Il était peint en rouge vif sur du tissu blanc. « Victoire ?» devina Adoline. Navani baissa le glyphe et regarda son neveu d'un air réprobateur. « Qui est-il » demanda-t-il tandis que ses armuriers entraient, portant les parties de sa cuirasse d'éclat. « Il dit sécurité et gloire, » répondit Navani. « Ça ne te tuerait pas d'apprendre quelques glyphes, Adoline ?» Il haussa les épaules. « Ça ne m'a jamais semblé si important. »« Oui, eh bien... » répondit Navani, qui replia la prière d'un air déférent et la posa dans le brasero pour la brûler. « Avec un peu de chance, tu auras un jour une femme qui le fera pour toi. » « Aussi bien lire les glyphes que les créer. » Adoline inclina la tête, comme l'exigeait la coutume, tandis que la prière brûlait. Païlia savait que ce n'était pas le moment d'offenser le Tout-Puissant. Cependant, quand ce fut terminé, il se tourna vers Navani. « A-t-on eu des nouvelles du navire ?» Il s'était attendu à recevoir un message de Jasna lorsqu'elle atteindrait les cryptes superficielles. Mais il n'y avait toujours rien. Navani avait consulté le bureau du maître du port de cette ville lointaine. Ils affirmaient que le plaisir du vent n'était pas encore arrivé, ce qui représentait une semaine de retard. Navani agita la main d'un geste dédaigneux. Jasna se trouvait à bord de ce navire. « Je le sais, ma tante, » répliqua Adoline, mal à l'aise. « Que s'était-il produit? Le navire avait-il été pris dans une tempête majeure? Et qu'en était-il de cette femme qu'Adoline épouserait peut-être si on laissait Jasna en faire à son idée? » « Si le navire a du retard, c'est parce que Jasna mijote quelque chose, » affirma Navani. « Vous verrez bien. Nous aurons de ses nouvelles dans quelques semaines, quand elle nous réclamera un service ou une information. » Je vais devoir lui soutirer les raisons de sa disparition. Puisse bâtard insuffler un peu de bon sens à cette fille en plus de son intelligence. Adeline n'insista pas. Navani connaissait Jasna mieux que quiconque. Cependant, il s'inquiétait pour Jasna et craignit soudain de ne pas pouvoir rencontrer la jeune fille, Shalan, à la date prévue. Bien entendu, ses fiançailles casuelles risquaient fort de ne pas se concrétiser. Mais une partie de lui souhaitait que si. Laisser quelqu'un d'autre choisir pour lui possédait un étrange attrait, compte tenu de l'insistance avec laquelle Danlan l'avait maudit lorsqu'il avait mis fin à leur relation. Puisque Danlan faisait toujours partie des scribes de son père, il la croisait à l'occasion, en s'attirant ses regards noirs. Mais sainte bourrasque, ce n'était pas sa faute à lui. Elle avait dit de ces choses à ses amis. Un armurier lui présenta ses bottes. Adoline les enfila et les sentit se mettre en place avec un déclic. Les armuriers s'empressèrent de fixer les jambières, puis progressèrent vers le haut, le couvrant de métal trop léger. Bientôt, il ne resta que le casque et les gantelets. Il s'agenouilla, enfila les gantelets à ses côtés, les doigts dans les emplacements qui leur revenaient. Obéissant à l'étrange fonctionnement des cuirasses d'éclat, l'armure se resserra d'elle-même, comme une anguille céleste s'enroulant autour d'un rat, jusqu'à acquérir une agréable étroitesse autour de ses poignets. Il se retourna pour prendre son casque au dernier armurier. C'était Renarin. «
Tu as mangé du poulet ?»
demanda-t-il à Adoline quand celui-ci lui prit le casque. « Au petit déjeuner. »«
Tu as parlé à ton épée ?»«
J'ai eu toute une conversation. »
« Tu as la chaîne de mer dans ta poche ?»«
J'ai vérifié trois fois. » Navani croisa les bras. Tu t'accroches toujours à ces superstitions idiotes ? Les deux frères se retournèrent vivement vers elle. « Ce ne sont pas des superstitions !» déclara Adeline en même temps que Rénarine affirmait
« C'est seulement pour se porter chance, ma tante !»
Elle leva les yeux au ciel. « Voilà longtemps que je ne me suis pas livré à un duel en bonne et due forme !» précisa Adeline en enfilant le casque, visière ouverte. « Je ne veux pas que quoi que ce soit aille de travers !»«
Quelles idioties !» répéta Navani. « Fie-toi au Tout-Puissant et au héros, pas au fait d'avoir mangé ce qu'il fallait avant le duel. Non des bourrasques, encore un peu et vous allez croire aux passions. »
Adeline échangea un coup d'œil avec Rénarine. Ces petites traditions ne l'aidaient sans doute pas à gagner. Mais pourquoi courir le risque? Chaque duelliste possédait ses propres manies. Les siennes ne l'avaient encore jamais trahi.
« Nos gardes ne sont pas enchantés, » affirma Rénarine tout bas. Il n'arrête pas de dire que ce sera dur de te protéger quand quelqu'un d'autre te menacera avec une lame d'éclat. »
Adeline baissa brutalement sa visière. Elle s'embruma sur les côtés, se verrouilla en place, puis devint translucide et lui permit de voir pleinement la pièce. Adeline sourit, sachant très bien que Rénarine ne verrait pas son expression. « Je suis tellement triste de leur refuser l'occasion de me materner. »«
Pourquoi prends-tu plaisir à les tourmenter ?»
Je n'aime pas avoir de gardien.
Tu as déjà eu des gardes?
Sur le champ de bataille, répondit Adeline.
Ça ne lui faisait pas tout à fait le même effet d'être suivi à la trace partout où il allait. Il n'y a pas que ça. Ne me mens pas, grand frère, je te connais trop bien.
Adeline étudia Rénarine au regard si franc derrière ses lunettes. Ce garçon se montrait trop sérieux en permanence. « Je n'aime pas leur capitaine, » admit Adeline.
« Pourquoi ça? Il a sauvé la vie de père ?»«
Il m'énerve, c'est tout. » Adeline haussa les épaules. « Il y a quelque chose de bizarre chez lui, Rénarine. Ça me rend méfiant. »«
Je crois que tu n'apprécies pas qu'il t'ait donné des ordres sur le champ de bataille. »«
Je m'en souviens à peine, » affirma Adeline sur un ton badin en s'avançant vers la porte de sortie.
« Bon, d'accord. File. Hey, grand frère !»«
Oui ?»«
Essaie de ne pas perdre. »
Adeline ouvrit les portes et s'avança sur le sable. Il s'était déjà trouvé dans cette arène, employant l'argument selon lequel, bien que les codes de guerre à l'Éthi proscrivent les duels entre officiers, il devait malgré tout entretenir ses talents. Afin de contenter son père, Adeline s'était tenue à l'écart des duels les plus importants, ceux destinés à remporter des championnats ou des éclats. Il n'avait pas osé risquer sa lame ni sa cuirasse. À présent, tout était différent. L'air était toujours imprégné du froid de l'hiver, mais le soleil brillait d'un éclat vif. Le souffle d'Adeline résonnait contre la visière de son casque et ses pieds faisaient crisser le sable. Il s'assura que son père le regardait. C'était le cas. Le roi aussi. Sa déesse n'était pas venue. Tant mieux. Sa présence aurait risqué de distraire Adeline en lui rappelant les dernières fois que sa déesse et Dalinar avaient été en bons termes, assis ensemble sur l'une de ces marches de pierre, à le regarder se battre en duel. Sa déesse projetait-il alors déjà sa trahison, tandis qu'il riait avec son père et bavardait comme un vieil ami?
Concentre-toi.
Son adversaire aujourd'hui n'était pas sa déesse. Même si un jour proche, il ferait descendre cet homme dans l'arène. C'était la finalité de tout ce qu'il accomplissait ici. Pour l'heure, il devrait se contenter de Salinor, l'un des porte-éclats de Tanadal. Celui-ci ne possédait que la lame. Même s'il était parvenu à emprunter l'une des cuirasses du roi pour combattre un porte-éclat dans les règles de l'art. Salinor se tenait debout de l'autre côté de l'arène, portant cette cuirasse gris-ardoise dépourvue d'ornements et attendant que la haute juge, la clarissime Istov, donne le signal de départ du duel. Ce combat, d'une certaine manière, insultait Adeline. Afin de pousser Salinor à l'accepter, il avait dû parier à la fois sa cuirasse et sa lame contre la seule lame de Salinor. Comme si Adeline n'avait aucune valeur,
et devait offrir un butin potentiel plus grand pour justifier que Salinor se dérange. Comme il s'y attendait, la reine débordait de pâles iris. Même si l'on spéculait qu'Adeline avait perdu son mordant d'autrefois, les duels pour gagner des éclats étaient extrêmement rares. Ce serait le premier depuis plus d'un an.
« Invoquez vos lames !» ordonna Istov.
Adeline tendit la main sur le côté. 10 battements de cœur plus tard, la lame tomba dans sa main prête à l'accueillir, un instant avant que celle de son adversaire n'apparaisse. Le cœur d'Adeline battait plus vite que celui de Salinor, ce qui pouvait signifier que son adversaire n'avait pas peur et le sous-estimait. Adeline adopta la posture du vent, tournée sur le côté, les coudes pliés, l'épée pointant vers le haut et l'arrière. Son adversaire choisit la posture de flamme, les pieds bien à plat, tenant son épée d'une main et touchant la lame de l'autre. Les postures étaient davantage une philosophie qu'un jeu de mouvements prédéfinis. Posture du vent, ample, fluide, majestueuse. Posture de flamme, rapide et flexible, préférable pour les lames d'éclat plus courtes. Adeline connaissait bien la posture du vent. Elle lui avait été très utile au cours de sa carrière. Mais elle ne lui semblait pas adaptée aujourd'hui. « Nous sommes en guerre », songea-t-il tandis que Salinor s'avançait tout doucement, cherchant à le tester. « Et tous les pâles iris de cette armée sont des recrues sans expérience. » L'heure n'était pas à se donner en spectacle. L'heure était à terrasser son adversaire. Tandis que Salinor s'approchait pour frapper un coup prudent destiné à jauger Adeline, celui-ci se retourna et adopta la posture de fer, tenant son épée à deux mains à côté de sa tête. Il repoussa le premier coup de Salinor, puis s'avança pour abattre sa lame contre son casque. Une fois, deux fois, trois fois, Salinor voulut parer, mais l'attaque d'Adeline l'avait manifestement surpris et deux des coups portèrent. Des fissures apparurent sur le casque de Salinor. Adeline entendit des grognements accompagnés de jurons quand Salinor voulut reculer son arme pour frapper. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Où étaient les coups prudents pour jauger l'adversaire, l'art, la danse? Adeline gronda et sentit le vieux frisson du combat le gagner lorsqu'il repoussa l'attaque de Salinor, ignorant l'impact sur son flanc, puis abaissa sa lame à deux mains et l'abattit violemment contre le plastron de son adversaire comme s'il coupait du bois. Salinor émit un nouveau grognement, et Adeline leva la jambe pour le renverser en arrière d'un coup de pied brutal qui le projeta à terre. Salinor lâcha sa lame, une faiblesse de la posture de flamme qui n'utilisait qu'une main, et elle se volatilisa. Adeline s'avança au-dessus de lui et renvoya sa propre lame, puis abattit son pied botté contre le casque de Salinor. La pièce de cuirasse éclata en fragments fondus, dévoilant un visage hébété et paniqué. Il abattit ensuite son talon contre le plastron. Alors même que Salinor tentait d'attraper son pied, Adeline enchaîna les coups de pied sans relâche jusqu'à ce que le plastron se brise à son tour.
« Arrêtez ! Arrêtez !»
Adeline s'interrompit, baissa le pied près de la tête de Salinor et leva les yeux vers la haute juge. Celle-ci se tenait debout dans sa loge, le visage rouge, la voix furieuse.
« Adeline Colline !» s'écria-t-elle. « C'est un duel, pas une épreuve de lutte !»«
Ai-je enfreint des règles ?» cria-t-il en réponse. Silence. Il s'aperçut soudain, malgré le bruit du sang à ses oreilles, que la foule entière s'était tue. Il l'entendait respirer.
« Ai-je enfreint des règles ?» insista Adeline. « Ce n'est pas ainsi qu'un duel, donc ?»«
J'ai gagné !» répondit Adeline. La juge bredouilla.
« L'enjeu de ce duel était fixé à 3 pièces de cuirasse brisées. Vous n'en avez brisé que 2 !»
Adeline baissa les yeux vers un Salinor hébété, puis il tendit la main, lui arracha une de ses spalières et l'écrasa entre ses poings.
« Voilà !»
Silence stupéfait. Adeline s'agenouilla près de son adversaire. « Votre lame !» Salinor tenta de se lever, mais ça lui était plus difficile sans son plastron. Son armure ne fonctionnerait pas correctement, et il lui faudrait rouler sur le côté pour se redresser péniblement.
C'était faisable, mais de toute évidence, il n'avait pas assez d'expérience avec la cuirasse pour accomplir cette manœuvre. Adeline le renversa brusquement en arrière sur le sable, près de son épaule. « Vous avez perdu ? » gronda-t-il.
« Vous avez triché ! »
bredouilla Salinor. « Comment ?»«
J'en sais rien, simplement, ce n'est pas censé !»
Il laissa sa phrase en suspens tandis qu'Adeline posait prudemment une main gantée contre son cou. Salinor ouvrit de grands yeux.
« Vous ne feriez pas ça ?»
Des sprennes de peur jaillirent du sable autour de lui. « Mon trophée !» dit Adeline, soudain épuisée. Le frisson l'avait déserté. Non des foudres, il n'avait jamais éprouvé ça lors d'un duel. La lame de Salinor apparut dans sa main.
« Le jugement, déclara la haute juge d'une voix réticente, est en faveur d'Adeline Colline, le vainqueur. Salinor Evède renonce à son éclat. »
Salinor laissa la lame glisser de ses doigts. Adeline la lui prit et s'agenouilla près de lui, tenant l'arme avec le pommeau tourné vers son adversaire.
« Rompez le lien. »
Salinor hésita, puis toucha le rubis placé sur le pommeau de l'arme. La gemme se mit à clignoter. Le lien avait été rompu. Adeline se leva, arracha le rubis, puis l'écrasa dans sa main gantée. Ce n'était pas nécessaire, mais c'était un symbole marquant. Un bruit s'éleva enfin de la foule, des bavardages surexcités. Ils étaient venus assister à un spectacle, au lieu de quoi on leur avait offert une démonstration de brutalité. Eh bien, cela se passait souvent ainsi, en temps de guerre. C'était sans doute une bonne chose qu'il l'ait vu, même s'il n'était plus très sûr de lui-même lorsqu'il regagna la salle d'attente. Renvoyer sa lame, se placer dans une position où l'ennemi aurait pu atteindre ses pieds. Adeline pénétra dans le vestiaire, où Rénarin le regarda en ouvrant de grands yeux.
« Ce duel, lui dit son jeune frère, était extraordinaire. Sans doute le duel à l'éclat le plus court qui ait jamais eu lieu. Tu as été incroyable, Adeline. »«
Merci. » Il tendit la lame d'éclat de Salinor à Rénarin. « Un cadeau. »«
Adeline, tu es sûre ? Enfin, je ne suis déjà pas très doué avec ma cuirasse. »«
Autant que tu aies le jeu complet, lui dit Adeline, prends-la. » Rénarin sembla hésiter.
« Prends-la !»
insista Adeline. Rénarin s'exécuta à contre-cœur, en grimaçant. Adeline secoua la tête et s'assit sur l'un des bancs renforcés destinés à recevoir les porte-éclats. Navani, descendu des gradins, les rejoignit dans la pièce.
« Ce que tu as fait, commenta-t-elle, n'aurait pas fonctionné sur un adversaire plus doué. »«
Je sais, » répondit Adeline.
« Dans ce cas, c'était judicieux, » reprit Navani. « Tu caches ta véritable adresse. Les gens pourront supposer que tu as remporté ce duel par la ruse, en livrant un combat brutal au lieu de te conformer aux usages. Ils continueront peut-être à te sous-estimer. Je peux jouer là-dessus pour t'obtenir d'autres duels. »
Adeline hocha la tête, comme si c'était pour cette raison qu'il avait agi ainsi.